Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce sont deux longs bâtiments de 4 étages qui communiquent entre eux et s'étendent autour d'espaces verts. Les 141 logements, sociaux pour la plupart, sont situés sur l'emplacement d'une ancienne usine de radiateurs en fonte. La résidence se nomme Chanteloup, elle se trouve à Aulnay-sous-Bois dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Elle est coincée entre une crèche, un supermarché, une station-service et deux parcs avec des jeux pour les enfants. Chaque entrée est assortie de son escalier extérieur en colimaçon, bleu pétant. Les portes sont rouges et dans les étages, les appartements sont plutôt spacieux, mais les 3200 habitants, en majorité des familles, se plaignent du manque d'isolation sonore, des ascenseurs qui tombent en panne, des escaliers sales, du chauffage qui marche mal. En juin 2013, des garages ont été inondés avec des 15 à 30 cm d'eau. Les plafonds sont parfois défoncés, les lattes arrachées ou peut-être dérobées. Il y a presque 10 ans, des grilles sécurisées avec interphone ont été installées pour assurer la tranquillité des habitants. Ici, le taux de chômage est au-dessus de la moyenne nationale puisqu'il s'approche des 20%. En juillet 2014, une fusillade a éclaté dans le supermarché du coin. Il y a aussi des histoires de deals et des rixes entre bandes rivales. Heureusement, à l'époque, Nicolas Sarkozy avait tenu un meeting à la cité, à la résidence Chanteloup, invité par son ami, le maire UMP Bruno Béquiza, qui avait appelé à s'allier au passage au FN pour le deuxième tour de la présidentielle en 2012. Tout de suite, donc, dans Les Pieds sur Terre, quelques histoires qui se passent dans ces bars, racontées par Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Une jeune fille m'a demandé comment elle pouvait faire pour monter sur le toit. J'étais devant le magasin, mon père, qui est juste derrière, là, Dallas Bazar. Moi, je lui dis, il y a des escaliers là-bas, tu peux prendre les escaliers, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire, quoi. Et 5-10 minutes après, j'entends des gens qui se rassemblent. Je suis parti voir et il y avait la jeune fille sur le toit. Elle était assise sur le rebord, en train de regarder en bas. Et il y avait les gens qui habitent à Chanteloup qui étaient tous là, en train de la regarder. Et elle disait, non, je ne veux pas sauter, ne vous inquiétez pas, appelez pas les pompiers surtout.
Hein ? Faites quoi là ?
Je les connais bien.
C'est petit.
C'est bordel.
Tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Mehdi.
Toi, ça fait combien de temps que tu vis ici ?
Ça va faire 20 ans. Je travaille dans un entrepôt qui fait de la viande de grec, tout ça. Ça fait même pas un mois. Ouais, je viens de commencer.
Tu fais des horaires un peu difficiles ?
6h du matin, des fois je peux finir à 15h, 15h30, maximum 16h. Moi, ouais, je commence tôt, je me lève tôt, ouais. Obligé d'appeler les pompiers, on voit une jeune fille qui est pas bien sur un toit, t'es obligé d'appeler les pompiers, les secours. Elle était dans mon collège, je l'avais fréquentée 2-3 fois. Ouais, et je savais qu'elle avait des problèmes familiales, quoi. Elle était en famille d'accueil, tout ça. Elle était triste. On avait peur qu'elle saute, voilà. Et quand les pompiers sont arrivés, j'aurais dit que la fille, je la connaissais, elle était dans mon collège, que c'est moi qui lui avais montré comment elle pouvait monter sur le toit. Donc je leur ai dit, est-ce que je peux monter avec vous, essayer de lui parler. Je voulais essayer de savoir pourquoi elle voulait se suicider, quoi. En tout cas, je lui ai dit qu'elle va gâcher sa vie si elle saute, qu'elle est jeune encore, que peut-être elle sera heureuse plus tard, peut-être pas tout de suite. Ouais, elle m'a regardé, après elle a eu les larmes. Et en fin de compte, elle s'est levée, je lui ai tendu mes bras, elle est venue dans mes bras. Quand elle s'est levée, elle s'est dirigée vers nous, j'ai entendu des applaudissements. Elle m'a dit, si je descends, je vais pas avec les pompiers. Moi, j'avais une pression à moi. Parce que si j'arrive pas, elle saute, c'est après je vais m'en vouloir toute ma vie. Et je crois, on lui a menti, ouais, t'inquiète, tu vas pas avec les pompiers, tu vas pas y aller, enfin, mon ami. Je sais pas. Elle est descendue, Elle est partie avec les pompiers. À ce moment-là, elle m'a lancé un regard, je sais pas, c'était bizarre. Comme si elle était encore plus triste, je sais pas. C'était pas un regard normal. J'ai eu des nouvelles d'elle après, grâce à une copine à moi. Et elle avait changé de famille d'accueil. D'un coup, elle a plus donné de nouvelles à plus personne. Elle est partie à Sevran. J'ai pas envie de m'imaginer des trucs. Peut-être qu'elle a tout effacé le passé. Et recommencer une nouvelle vie, peut-être. Peut-être qu'elle est bien, peut-être qu'elle est heureuse. Je sais pas. Je suis né là, moi.
Demain, j'ai 48 ans, ça fait 48 ans que je suis là.
Ah, bah, fêtez ça ici, monsieur, là, où on est là.
Ici.
Non, là, c'était une usine quand moi j'étais môme.
Ah ouais ?
Ah ouais, c'était une usine. Vous voyez là, ce qui descend sur ma rue. Et bien là, c'était les portes de l'usine. Le matin, les ouvriers, ils arrivaient là et puis ils remontaient.
Vous étiez à Chanteloup ?
Bon, bah, Chanteloup, c'était tout ça, c'était une usine, c'était effondrie.
Ah ouais ?
C'est pour ça qu'on a ces bâtiments-là, comme ça, en arrondi, tous ces arcs et autres. Il y avait des grandes cheminées. Le château d'eau, il date de ça.
Il y avait quoi dans le château d'eau avant ?
C'était l'eau pour l'usine.
C'était une usine de quoi ici ?
Ils fabriquaient des radiateurs et des chaudières en fonte. Alors ça travaillait 24 sur 24. Donc toutes les 8 heures, il y avait les changements d'équipe, on entendait les sirènes. C'était toujours gris dans le coin, on avait toutes les fumées, tout ça, c'était le mauvais côté. Quand on est jeune, on respirait que de la fumée. Nos mères, elles ne mettaient pas le linge à sécher dehors, il devenait gris direct. Hein. Toutes les maisons, elles étaient grises dans le coin.
Vous, vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je suis entrepreneur en bâtiment.
Arrête de faire le coup, wesh.
Un jour, j'étais sur Paris et j'avais un plan de travail de 4 mètres à monter sur le 4e étage. Et il me fallait quelqu'un qui m'aide tout seul, c'était impossible à lever. Et devant les marchands de matériaux, nous avons beaucoup de gens qui sont là dès le matin, qui cherchent du travail à la journée ou à l'heure. Je rentre dans toute cette foule, c'était des Slaves, donc avec mes origines slaves, on arrive à se comprendre. Et je demande à avoir un menuisier, puis on me présente un jeune, il devait avoir dans les 21 ans ou 22 ans, je suis plus précis sur son âge. Je l'ai emmené avec moi, on monte ce fameux plan de travail dans les étages, je l'interroge un peu, il me dit qu'il est menuisier, je lui donne une petite planche à couper, il suffisait de regarder sa gestuelle, le crayon derrière l'oreille, la façon qu'il avait de prendre les mesures, je vois que c'est un jeune menuisier. Le travail est réussi. Je le garde pour la journée. Je lui paye demain à main sa journée, bien sûr. Il m'avait bien aidé. Et je discute un peu plus avec lui. Donc c'est un sans-papier d'Ukraine qui était arrivé en France. Mais l'individu me semblait intéressant. Surtout que je n'arrivais pas à trouver ici un jeune menuisier. Alors ce jeune, je l'ai eu. Il a fallu s'occuper, bien sûr, de le mettre en règle. Et alors là, quand on rentre dans ce bazar de papier... Obligé de le garder pendant un an et demi au noir, parce qu'il n'y a pas moyen qu'il ait le droit de travailler. C'est les procédures, c'est tel papier, il faut remplir les dossiers auprès de l'OMI. L'Organisation pour la main-d'œuvre internationale. Je me trompe peut-être sur une des syllabes. Enfin, ça se trouve à Bobigny, on remplit le dossier, on explique pourquoi on fait venir telle ou telle personne. Mais alors les procédures sont tellement longues, le temps passe, les gens ont besoin de manger aussi, de travailler. Alors lorsque vous remplissez par exemple des dossiers de l'OMI, on vous demande un tas de raisons, le pourquoi, c'est-à-dire il faut se retrouver à écrire. Lorsqu'on travaille dans le bâtiment, le soir, déjà on n'est pas fort pour les textes. Derrière ça, on veut vous renvoyer sur le pays d'origine et que vous attendiez sur place 6 mois pour avoir cet accord ou non-accord. Or, quelqu'un qui est émigré en France, pour raisons financières surtout, c'est pour travailler, c'est pas pour rester chez lui pendant 6 mois avec ce fameux espoir. L'administration, elle n'avance pas, elle ne bouge pas, ça stagne, mais bon, il suffit d'aller dans les bureaux de l'administration pour s'en rendre compte. Hein. Toutes ces lois qui ne sont pas faites, tous ces blabla qui mettent des heures, on finit par se demander ce qu'ils y font. J'ai continué à l'employer. La personne était méritante et le côté humain doit primer sur les lois. Et voilà, vous avez quelqu'un qui veut travailler. Moi, sur place, j'avais essayé un tas de gens où ça leur plaisait pas, où ils ne faisaient pas l'affaire. J'ai trouvé la perle dans les employés, je l'ai conservée. Maintenant, c'est sûr que ça obligeait à ne pas pouvoir le déclarer. Si on m'était tombé dessus, ça aurait coûté très cher. Mais bon, je me bats toujours pour mes idées et mes convictions. Et ça aurait été plus simple de pouvoir le déclarer. Quand vous ne pouvez pas déclarer quelqu'un, c'est dingue. C'est dingue. Il était prêt à payer ses charges, j'étais prêt à payer ses charges. Il n'y avait aucun souci. L'amitié s'était fait, ou un super ami. Puisque bon, en dehors des heures de travail, le fait de se voir, je l'avais même emmené en vacances sur la Côte d'Azur. Il a découvert la mer pour la première fois. C'était au moment des vacances, la Toussaint, il s'était baigné en octobre. Pour lui, la mer était chaude, pour moi, elle était froide. Mais... Alors, je suis très sensible au sujet des migrations, puisque mon père était venu d'Yougoslavie. Bon, ma mère est une déportée de Pologne. Mon épouse est aussi une émigrée, puisqu'elle est venue d'ex-Yougoslavie au moment de cette dernière guerre. En contact avec un tas de gens et à travers le monde, et je ne différencie pas les gens par rapport au pays d'origine, puisque je suis même très friand d'en apprendre sur toutes les cultures, mais je les diviserai, vous m'excuserez ce mot vulgaire, mais les gens que je juge bien et les cons, c'est le mot qu'on emploie. Voilà, c'est à ça que je vais les séparer. Au bout de 4 ans, il a décidé de repartir. Il avait mis assez d'économies de côté, et donc il est reparti en Ukraine. Bon, c'est l'amour qui l'a pris. Il avait repris contact avec son amour d'enfance sur place. Là-bas, il s'écrivait, ça se téléphonait, et il a décidé de repartir. Et il a ouvert une entreprise d'ébénisterie, parce qu'il avait aussi cette formation d'ébéniste. Il fabrique des fauteuils et des choses comme ça, enfin un tas d'objets en bois. Je n'ai pas été triste quand il est parti, quand il m'a quitté. Bien au contraire, il fallait qu'il fasse sa vie. Il avait déjà passé 4 ans ici, c'était une expérience pour lui. Et il n'a pas perdu le français qu'il a appris. Lorsqu'on se parle au téléphone, on arrive toujours à parler en français. Non, non, ça reste un ami à vie.
Deux hommes m'ont suivi. J'attendais le bus et puis ils sont arrivés, ils m'ont bousculé un petit peu et m'ont dit « Soumise, dégagez de notre pays ». Je pense que c'est des skinheads. Crâne rasé, tatouage, blanc. Donc personne n'a réagi autour, il y avait des dames, des messieurs, personne n'a réagi. J'ai montré ma carte d'identité française, j'ai dit « ça fait 22 ans que je suis née en France, mes parents sont en France, mes grands-parents sont en France, j'ai été à l'école française aussi, je pense même plus que vous ». Moi, j'ai pas peur, je suis quelqu'un vraiment... J'ai fait des sports de combat, etc., donc j'ai vraiment pas peur. J'ai fait de la boxe thaïlandaise avec mon frère et son club.
Je peux vous demander votre prénom ?
Alors, c'est Sabrina.
Vous avez quel âge, vous, Sabrina ?
J'ai 22 ans. J'ai vraiment pas peur, donc je leur ai répondu... Excusez-moi, vous venez nous bousculer, un pardon, ça serait gentil. Ça a été des insultes. Bon, à un moment, il a essayé de tirer sur mon voile... pour me l'enlever, donc c'est à ce moment-là que je l'ai poussé, que je suis partie en courant. Ils m'ont coursé, mais bon, heureusement que je cours très vite, donc j'ai pu m'enfuir. Je suis passée dans une petite rue, moi j'étais à côté de chez moi, donc je connaissais. Je sais pas s'ils étaient du coin. Donc j'ai réussi à passer dans une petite rue qui menait dans un immeuble. Donc je suis montée dans l'immeuble et je les ai vus passer par la fenêtre. En fait, vu que je venais juste d'entendre juste avant qu'une femme voilée s'était fait agresser enceinte et qu'elle avait perdu le bébé parce qu'on lui avait mis des coups, etc., j'avais juste peur de s'ils avaient un couteau ou une arme sur eux. Donc j'ai préféré courir et pas être plus intelligente qu'eux, en fait. Pas répondre, pas rétorquer comme ils l'auraient voulu. Et au final, ils auraient eu ce qu'ils voulaient, me taper. Donc j'étais un peu stressée, donc j'ai appelé directement mon copain, qui est mon mari aujourd'hui. Donc il est venu me rejoindre et... C'est marrant en fait quand on est avec son mari ou son copain ou un frère où il n'y a jamais d'agression. Il y a un homme. Je lui ai directement expliqué ce qui s'était passé. Au début, il voulait aller faire un tour pour voir s'ils étaient encore là et tout. Et puis moi, j'ai préféré lui dire non, on rentre. C'est mieux. Calmer les choses, ça sert à rien. Ils sont partis, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient et voilà. Bon, c'est toujours les mêmes phrases, hein, que ce soit dans le métro, dans le RER ou dans la rue. Ça restera toujours dégagé chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. C'est le carnaval aujourd'hui, dû à l'habit, aux vêtements que je porte, le gilbeb. Ça reste le voile, mais sauf que moi, je le porte parce que c'est plus pratique. J'ai pas à m'habiller le matin. Mais oui, sinon, je mets le voile avec une belle jupe. Je m'habille, je me fais coquette aussi. Ça veut rien dire. Si je le porte, c'est de moi-même. J'avais pas de copains, j'avais pas... Voilà, j'étais à l'école, j'étais chez mes parents qui ne sont pas pratiquants eux-mêmes. Ils sont musulmans, ils croient au même Dieu que moi, en un seul Dieu unique.
Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez décidé de le porter?
J'ai eu une opération de l'appendicite, donc une péritonite aiguë. Donc l'appendicite avait déjà éclaté et en fait... Le médecin m'a dit que je serais venue vraiment 2 minutes plus tard, j'aurais peut-être pu y passer. Donc... Je me suis posé plein de questions et le soir même, en fait, j'ai fait un rêve assez joli, comme quoi j'étais avec des anges, en fait, j'étais sauvée. Donc, quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décide de la vie ou de la mort. Parce que juste avant moi, il y avait peut-être quelqu'un qui était mort dans le même bloc, donc je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, comme j'étais déjà musulmane aussi, mais pas pratiquante, de me dire que j'étais reconnaissante envers mon créateur.
France Culture, les pieds sur terre.
Moi, je m'appelle Marie-Jeanne Kerruel, j'ai 54 ans et j'habite ici depuis plus de 30 ans. Alors, on avait un gardien qui est jeune, qui était là depuis quelque temps. Tout se passait bien, si ce n'est qu'effectivement, il devait faire face à des soucis de jeunes qui squattaient, à des dégradations que... On avait l'impression d'être un peu laissé pour compte dans notre quartier. C'est M. Dumonet qui a pris la suite. On a vu arriver un homme qui semblait très posé, très calme. Alors effectivement, le contraste a été saisissant. On faisait appel à lui, on avait une réponse. En général, la réaction était rapide, enfin... Il se laissait pas trop démonter par les problèmes de squat et de mauvais entretien des bâtiments, quoi. Ben, c'était des jeunes, alors, du quartier et d'autres des environs. À partir de, disons, 14-15 heures, ils s'installaient dans les halls, celui de l'immeuble où je suis, mais aussi bien celui du 3. Ils se posaient là, ils buvaient, ils fumaient. Donc, vous imaginez à 10-11 heures du soir dans quel état ils pouvaient être, quoi. Même parfois avant. On rentrait pour prendre l'ascenseur, très souvent ils se faisaient semblant de nous racketter parce que, enfin, moi pour ma part j'ai jamais été bloquée, c'était file-moi un franc à l'époque, si tu veux monter, sinon on te bloque. Bon, ben, on montait, ils nous avaient pas bloqués, mais voilà, donc ça faisait une pression pour les jeunes. C'était moi, mon fils, ni monter ni descendait tout seul à cette époque-là, hein. Il fallait absolument qu'il soit accompagné. Et finalement, ils nous ont jamais... Enfin, pour ma part, ils m'ont jamais bloqué. Je pense que c'était un peu de l'esbrouf pour essayer de nous impressionner et de voir si on n'allait pas monter à pied. Bon, ben, M. Dumonet le vivait assez... Enfin, on pensait qu'il le vivait assez tranquillement. Et puis, je ne sais plus comment, un jour, j'ai été contactée par l'ancien directeur de Toit et Joie, et pour nous dire, bah écoutez, on a un problème, il y a des logements squattés, a priori c'est le gardien qui a donné les clés, on a besoin de porter plainte, mais il nous faut des témoignages comme quoi, effectivement, les logements sont squattés. Donc nous, au bout du couloir, on avait un logement qui s'était libéré, et régulièrement, on voyait de la lumière sous la porte, enfin, et des allées-venues, on se demandait ce que c'était, et effectivement, on a appris par la suite qu'il avait donné les clés, Monsieur Dumonet avait donné les clés aux jeunes, qui étaient dans le hall. Alors on les voyait plus dans le hall, mais ils allaient et venaient toute la nuit dans cet appartement, quoi, vide, mais qu'ils s'étaient approprié, voilà. Si mes souvenirs sont bons, ils m'avaient dit, on s'en occupe, ils n'ont rien à faire ici, mais voilà, maintenant qu'ils y sont, c'est compliqué. Et donc on était plusieurs locataires à aller témoigner qu'effectivement, certains appartements étaient occupés, irrégulièrement. Le fait que c'était des SDF qui l'avaient relogé, on l'a su bien plus tard. Enfin, moi, j'étais allée témoigner pour l'appartement au bout, parce que je savais que c'était pas les locataires, que c'était pas des locataires réguliers. Pour les appartements qui étaient occupés par des SDF, là, moi, je suis tombée des nues. Et c'est après que j'ai appris qu'il était effectivement SDF, qu'il avait été embauché, donc du coup il avait trouvé un toit aussi, et qu'il avait voulu rendre service à des SDF. Humainement, moi je trouve ça très compréhensible, quoi. Maintenant, après, c'est les moyens qu'il y a mis. Voilà, c'est compliqué de faire tout seul des choses comme ça, mais... Du coup, il a été remplacé par une gardienne. On a un peu oublié toute la partie humaine du soutien ou pas du soutien à M. Dumonet. On est reparti dans un autre rythme. C'était un moment particulier. C'est quand même pas tous les jours qu'un gardien a un sens humain dans l'attribution d'un logement. Enfin, on attend d'avoir en face de nous un technicien, le ménage est fait, l'entretien est fait, les poubelles sont vidées, et rarement quelqu'un d'humain qui va... Voilà, c'était surprenant en ce sens-là.
C'était pendant l'hiver, donc il faisait nuit. Je sortais de mon stage et ils sont sortis, les jeunes de Bondy, de nulle part, on va dire ça comme ça. Ils étaient entre 10 et 15. Ils sont venus, ils m'ont dit j'étais une personne de quel quartier. J'ai dit j'habite à Aulnay et j'ai continué mon chemin. Après, j'ai vu qu'ils me regardaient, donc je les ai regardés parce que je savais très bien qu'ils allaient réagir un moment à l'autre. Donc je me suis préparé. Après, j'ai vu qu'ils étaient nombreux, donc je voulais pas faire le super-héros. Je me suis dit que ça y est, ça allait, les problèmes allaient commencer.
Je peux te demander comment tu t'appelles ?
Riyad.
Et tu as quel âge ?
18 ans.
Et tu, donc tu es en terminale S aussi ?
Non, terminale électrotechnique. Après le bac, je vais essayer de faire un BTS pour ensuite, avec le temps, ouvrir mon entreprise d'électricité. Il y a eu quelques affrontements, on va dire, entre Bondy et Aulnay pour montrer que c'était eux les meilleurs. C'est la puissance du quartier, en fait. Et bah eux, ils étaient là pour faire montrer que ils étaient mieux que les gens qu'habitaient à Aulnay. Il y en a deux qui se sont mis devant moi. Ils ont commencé à me poser des questions. Ils me disaient, bah t'es un mec doux, j'avais quel âge ? Tu fais quoi ici ? Il y a quoi dans ton sac ? Ils ont essayé de me voler mon portable. Ils n'ont pas réussi parce que je l'avais mis dans ma sacoche et je marchais en arrière en ayant toujours une garde pour se défendre, on va dire. Et après, je leur ai dit, je sortais du travail. Ils me parlaient mal. Ils mettaient des claques aussi pour montrer que c'était eux les boss. Dès que j'ai vu qu'ils commençaient à aller trop loin, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des amis à moi. Ils étaient posés dans le parc, juste à côté de la gare. Ils sont venus directement. Ils étaient entre 6 et 10. Et heureusement qu'ils étaient là. Les gens de Bondy, ils ont sorti leurs armes. Tout ce qui était batte de baseball, barre de fer, coup de poing américain, extinte. C'est les grosses bombes lacrymogènes. Ça m'a ébloui. Je voyais flou, j'étais déboussolé, on va dire.
Et toi, t'avais quoi pour te défendre ?
J'avais rien du tout, je sortais de l'école. Bonjour, ça va Radji ? Ça va, alhamdoulilah. J'avais juste mes cahiers et mes stylos. Ah, c'est tout. Vu que eux, c'est pas leur quartier, je pense qu'ils étaient plus là pour voler les personnes ou les agresser. Et... Bah, j'ai pas eu de chance, c'est tombé sur moi. Dès que j'ai vu mes amis venir, je les ai poussés les deux, j'ai jeté mon sac. Et après, je me suis mis directement en garde. J'ai attendu que ce soit la première personne qui vienne me mettre le premier coup. Et ensuite, je lui ai mis un coup moi aussi. Mais vu qu'ils étaient deux, le temps que je mette un coup, il y en avait déjà un autre qui m'avait déjà mis un coup. De la bande de Bondy, il y en a un qui s'est fait planter au niveau de la cuisse. Après, à Aulnay, ouais, c'était plus à cause de la bombe lacrymogène. Puisque ça, quand ça touche, on voit flou. On a du mal à respirer, on tousse. Et c'est ça. La gazeuse, elle m'a brûlé un petit peu au niveau de la bouche. Après, j'ai reçu un coup de poing, j'ai eu un cocard. Et ensuite, bah, c'est dispersé. Mais après, ça m'a mis la haine en moi. Et j'étais en colère parce que je me suis dit, ils étaient plusieurs contre moi. Alors que si on aurait fait un contre un, ça ne se serait pas passé comme ça. Nous, les gens de Belenay, on s'est dit, on va repartir dans leur quartier pour se rebattre. Mais ça s'est pas fait en fait. Mes parents ils m'ont dit ouais comment tu t'es fait ça. Je dis bah il y a eu une bagarre au lycée. Mais après je leur ai dit la vérité, ouais. 2 jours après je leur ai dit que je me suis fait agresser entre guillemets. Ils m'ont dit de rentrer plus tôt, d'arrêter de traîner, mais je leur ai dit que c'est pas de ma faute. Quand je suis à Aulnay, je me balade l'esprit libre. Mais quand je vais d'autres quartiers, je regarde un petit peu à gauche, à droite, s'il n'y a pas des gens qui me suivent ou des petits trucs comme ça. Maintenant, j'essaie d'avoir une arme de défense, on va dire. Soit une petite gazeuse, un poing américain, une matraque. Je fais attention. Don't waste your life, Claire. Don't waste your life, Claire. Don't waste the things that you might do. And I love you. So, don't waste your bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you. Now, there's a cold chill in my heart.
C'était des histoires dans des bars à Aulnay-sous-Bois, dans la résidence Chanteloup, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Thomas Jost et diffusé pour la première fois le 23 octobre 2014. Depuis la première diffusion de cette émission, sachez que nous avons eu quelques nouvelles de l'entrepreneur qui mène toujours une vie heureuse. Merci à Marc, à Riyad, à Mohamed, à Oumar, à Mehdi, à Marie-Jeanne, à Sabrina, à tous les habitants de la résidence Chanteloup à Aulnay-sous-Bois et à Cécile Lafont qui s'est occupée de cette rediffusion. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.